côté Europe 1.
Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zélani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 soir. Facture salée, notre déficit public atteint les 5,5% du PIB en 2023. C'est presque 16 milliards de plus que les prévisions du gouvernement. Pas facile de rentrer dans les clous, les dépenses de santé pourraient être mises à contribution. On va y revenir largement avec l'économiste Anne-Sophie Alsif. Le gouvernement veut par ailleurs geler les avoirs des trafiquants de drogue. Le narcotrafic, c'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires. On va en parler avec le spécialiste du grand banditisme, Frédéric Ploquin. Là aussi, vous pouvez témoigner ou poser vos questions au 01 80 20 39 21. Ça ressemble au RPR, ça porte le nom du RPR, mais ça n'est pas le RPR, le Rassemblement National qui a racheté ce nom et son logo, organise ce soir les états généraux de l'immigration. Dans ce journal, trois gardes à vue dans l'affaire de la disparition de Lina dans le Bas-Rhin, l'effondrement du pont de Baltimore, le foot France-Chili, c'est ce soir, et puis le changement climatique aura des conséquences sur la production de vin dans le monde et notamment en France. Décryptage vers 19h50 avec l'agronome Jean-Marc Touzard. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors les régions qui bordent la Méditerranée vont progressivement retrouver du temps sec demain, mais de nouvelles pluies reviennent par l'ouest. Celles d'aujourd'hui vont stationner sur la façade est avec une limite pluie-neige qui va bien baisser, notamment dans le centre-est où trois départements ont été placés en alerte orange pour la neige, l'Isère, la Loire et la Haute-Loire. Et je vous dis tout en fin de journal.
À tout à l'heure. Un découvert de taille dans les finances publiques, c'est donc désormais officiel. Le déficit pour 2023 s'élève à 5,5% du PIB, nettement au-dessus des 4,9% espérés par le gouvernement. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est déterminé à repasser sous la barre des 3% en 2027. Alors comment faire? Parmi les solutions pour renflouer la caisse, Bercy lorgne plus que jamais sur les dépenses de santé, Baptiste Morin.
Oui, la rumeur courait dernièrement que Bruno Le Maire s'intéressait à la prise en charge des affections de longue durée pour l'essentiel des personnes souffrant de diabète ou d'un cancer. Mais ce matin, l'entourage du ministre s'est montré beaucoup moins décidé sur ce sujet. En revanche, il dit vouloir cibler les arrêts maladie. L'objectif est de réduire la facture de 15 milliards d'euros que représentent les indemnités journalières. Reste à savoir comment le ministre compte s'y prendre. Sur la table aussi, les 5 milliards d'euros de transport sanitaire. Le gouvernement veut promouvoir le transport partagé pour réduire la facture de plusieurs centaines de millions d'euros à l'horizon 2027. L'opération n'est pas simple car elle signifie remettre en cause le modèle économique de nombreux chauffeurs de taxi. Enfin, l'exécutif a beau dire qu'il n'augmentera pas les impôts, la réduction des dépenses publiques ne devrait pas être indolore pour autant. Preuve en est le doublement des franchises médicales. Elles passeront de 50 centimes à 1 euro sur les boîtes de médicaments et ce, dès lundi prochain.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, le Premier ministre Gabriel Attal, qui annonce vouloir poursuivre sur la voie de la rigueur, sera demain soir l'invité du journal de 20h de TF1 pour parler budget et marché du travail. Après ce journal, on va revenir sur les solutions envisagées par le gouvernement. Quelles répercussions pour chacun d'entre nous? Réponse de l'économiste Anne-Sophie Alsif. À l'approche de Pâques, le chocolat atteint des sommets. Le cacao est monté à 10 000 dollars la tonne. Aujourd'hui à New York, une explosion de prix liée aux craintes de pénurie d'approvisionnement. Désormais, une tonne de cacao coûte plus cher qu'une tonne de cuivre. On en vient au coup de gueule du maire d'Orléans, Serge Grouard, ancien LR. Il dénonce le transfert discret de sans-abri et de migrants dans sa ville, selon lui en prévision des JO de Paris. Écoutez-le sur Europe 1 à la mi-journée.
La situation que j'ai progressivement découvert, ce sont effectivement des personnes sans domicile fixe qui viennent de Paris, la plupart du temps presque exclusivement des migrants en situation irrégulière et qui donc, depuis mai 2023, sont délocalisés, si je puis dire, de Paris sur Orléans et sans doute d'autres villes de province à raison d'un quart toutes les trois semaines, avec entre 30 et 50 personnes à bord selon les moments, donc au total à peu près 500 personnes. Et ça, c'est un système qui est donc organisé. J'allais dire que ces cars sont affrétés par l'État et qui nous envoie ces personnes, notamment sur Orléans. Je trouve que c'est inacceptable, d'autant que c'est fait en catimini.
Le maire d'Orléans, invité de Céline Géraud dans Europe 1 13h. Ce soir, la préfecture du Loiret dément que l'arrivée de migrants dans la ville soit liée aux Jeux Olympiques. Elle précise que 10 sas d'accueil temporaire régionaux ont été mis en place par l'État, et cela pour répondre aux besoins d'hébergement d'urgence en Île-de-France. Le Rassemblement National donne rendez-vous à ses militants ce soir dans une salle parisienne pour des états généraux de l'immigration. Référence assumée au colloque du même nom lancé par le RPR en 1990. Pour Jordan Bardella, il s'agit clairement de récupérer certains nostalgiques. Alexandre Chauveau.
Oui, le clin d'œil aux électeurs de droite est très largement assumé. À l'époque, après 2 mois de travail, le RPR propose entre autres de réserver les prestations sociales aux seuls nationaux, la fermeture des frontières ou encore la suppression du regroupement familial. L'objectif du RN ce soir, c'est donc de montrer d'une part que son programme est républicain, puisque défendu par le RPR de l'époque, d'autre part de mettre en avant les trahisons supposées de la droite dite classique, accusée de ne pas avoir tenu ses promesses, et surtout de se présenter aujourd'hui comme le grand parti de droite. Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône, à l'initiative de ces états généraux.
Ce RPR a la fibre sociale et patriote. Il rassemble les gaullistes sociaux, attachés à la justice sociale, parfois déjà à l'époque qualifiés de gauche, et les gaullistes, on va dire, costauds, attachés à l'ordre républicain, parfois déjà traités de fachos.
Franck Alizio qui, en juin 2023, avait d'ailleurs racheté symboliquement le nom de domaine du RPR, une initiative qui avait interpellé au regard du passé anti-gaulliste du RN. Mais le parti veut aujourd'hui montrer sa capacité à rassembler. En témoigne la présence sur scène en ce moment de l'essayiste Malika Sorel, nouvelle numéro 2 sur la liste de Jordan Bardella aux élections européennes.
Alexandre Chauveau en direct de la maison de la chimie à Paris, où semble-t-il les plafonds sont très hauts. L'enquête avance 6 mois après la disparition de la jeune Lina, 15 ans, dans le Bas-Rhin en septembre dernier. Elle s'était volatilisée alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. C'est une première dans cette enquête. 3 personnes ont été arrêtées. Elles sont ce soir en garde à vue, Guillaume Dominguez.
Oui, un couple convoqué par la gendarmerie et un homme interpellé tôt ce matin à son domicile. Tous les 3 sont entendus pour des incohérences dans leur emploi du temps le 23 septembre, jour de la disparition de Lina. Mais les enquêteurs veulent rester très prudents. Impossible de dire si à ce stade ils ont un quelconque lien avec la disparition de la jeune fille. Le but de ces vérifications est plutôt de fermer des pistes, selon une source proche du dossier. Et c'est dans cet objectif que plusieurs témoins ont également été convoqués aujourd'hui pour être entendus librement. Pour le moment, aucun éclairage n'est apporté par le parquet de Strasbourg en charge de l'enquête, qui n'a pas répondu à nos sollicitations. En parallèle, les enquêteurs ont fouillé ce matin un puits à environ 5 km du lieu où Lina aurait été vue pour la dernière fois, sans que les recherches donnent de résultats.
Et sachez aussi que Claude Alfandéry est décédé paisiblement à 101 ans, selon sa famille. Résistant de la première heure, il s'était beaucoup investi dans l'économie sociale et solidaire. Et puis les obsèques de Frédéric Mitterrand ont été célébrées cet après-midi en l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Nicolas Sarkozy était présent, ainsi que Christine Ockrent, Ariel Dombal et 5 anciens ministres de la Culture. Il est 19h08 sur Europe 1 dans un instant. Un pont heurté de plein fouet par un cargo. Incroyable image à Baltimore aux États-Unis. 6 personnes sont toujours portées disparues.
Europe 1 soir.
Jusqu'à 20h.
Hélène Zelani.
19h09 sur Europe 1, l'image est particulièrement impressionnante. Ça se passe à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. Un énorme navire heurte la pile d'un pont qui s'écroule et entraîne dans sa chute plusieurs véhicules ainsi que des ouvriers qui travaillaient sur ce pont. Les opérations de secours se poursuivent ce soir pour tenter de retrouver au moins 6 disparus. Que s'est-il passé précisément à Viva Fried? Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, le porte-conteneur Dali, qui navigue sous pavillon de Singapour, venait de quitter le port de Baltimore à destination du Sri Lanka. Selon les premières informations, il aurait alors souffert d'un problème d'alimentation électrique. Le navire a perdu le contrôle et a percuté l'une des piles du pont. Un incendie s'est déclaré, puis en quelques secondes, le pont s'est effondré en plusieurs morceaux, comme un château de cartes. Mais avant la collision, l'équipage a pu envoyer un SOS et la circulation sur le pont a été interrompue, ce que raconte Wes Moore, le gouverneur du Maryland.
Je remercie les gens qui, en recevant le SOS, ont pu empêcher les voitures de rouler sur le pont. Ce sont des héros, ils ont sauvé des vies cette nuit.
Il y avait tout de même des personnes, des ouvriers qui travaillaient sur l'autoroute qui traverse le pont. Des hélicoptères, des drones et des sonars ont été déployés pour tenter de retrouver d'éventuels survivants tombés à l'eau. Côté enquête, le FBI estime que rien n'indique qu'il pourrait s'agir d'un acte terroriste. Le Dali avait été inspecté en septembre dernier et aucun problème n'avait été détecté.
À Viva Frido, aux États-Unis, pour Europe 1, le trafic maritime est suspendu jusqu'à nouvel ordre dans l'un des plus grands ports des États-Unis. Le président Biden promet qu'il sera réparé aussi vite qu'humainement possible. En France, on se souvient de l'incident qui avait embrasé le lycée Maurice Ravel à Paris. Le proviseur menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève à laquelle il demandait d'enlever son voile. Eh bien, ce proviseur a quitté ses fonctions. Il a déjà été remplacé. Un départ pour des raisons de sécurité, selon le message adressé aux parents. Le rectorat, pour sa part, évoque des raisons personnelles. Quelle est la boisson alcoolisée préférée des Français ? C'est le vin. La bière repasse en deuxième position. Suivent le champagne, les cocktails, le cidre et les spiritueux. Parlons du vin, justement. Une étude menée par des chercheurs français paraît aujourd'hui. Elle s'intéresse aux conséquences du changement climatique sur la production mondiale. Résultat, Antoine Bienveau, si le réchauffement de notre planète dépasse les 2 degrés, certaines régions productrices seront menacées, y compris dans le sud de la France.
Oui, d'ici la fin du siècle, les vignobles du sud-est de la France pourraient perdre leur aptitude à produire du bon vin. Selon l'étude, c'est même toute la côte méditerranéenne, espagnole, française et italienne qui est menacée. Car avec la hausse des températures, les raisins de ces régions perdraient en qualité, comme l'explique Kees van Leuven, professeur de viticulture à Bordeaux Sciences Agro et chercheur à l'INRAE.
Quand vraiment il fait très 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 chaud, on a notamment une détérioration de la qualité aromatique. Donc les arômes sont moins complexes, on a des arômes qui vont vers des arômes de fruits confits, de fruits cuits, et c'est moins intéressant que d'avoir des vins fruités avec des arômes de fruits frais.
Mais ce réchauffement climatique pourrait en revanche profiter à d'autres régions du monde plus au nord de l'hémisphère, notamment aux Pays-Bas et à la Belgique, dont la production a déjà bondi de 14% sur un an en 2022. La production est aussi déjà en forte hausse en Angleterre, où 3000 hectares de vignes sont aujourd'hui en capacité de produire du vin. La France, elle, pourrait s'en sortir avec l'apparition de vignobles de plus en plus importants dans les Hauts-de-France, selon les experts.
Et si le vin, ça vous intéresse comme nous, eh bien, sachez qu'on va y revenir à 19h50 avec Jean-Marc Touzard. Il est directeur de recherche à l'Institut National de Recherche Agronomique. Va-t-on sabler le champagne pour les Bleus? En tout cas, il joue ce soir un match amical qui n'est pas dénué d'enjeux face au Chili. Rencontre au Stade Vélodrome de Marseille. C'est la dernière ligne droite avant l'Euro, dont le coup d'envoi sera donné dans 80 jours. Les Bleus doivent donc rebondir après la claque infligée par l'Allemagne 2-0 samedi dernier. Leur moral est bon, Cyril de la Morinerie?
Écoutez, les Bleus ne paniquent pas, ils privilégient la thèse de l'accident face à l'Allemagne. Les joueurs de Didier Deschamps veulent maintenant s'imposer face au Chili avec la manière pour calmer les esprits inquiets, confirme le capitaine Kylian Mbappé.
On ne va pas tirer sur les gars après seulement un match perdu. Donc on est toujours soudés, unis, on est toujours remplis de confiance. Donc c'est à nous de se servir de ce match comme moteur et comme contre-exemple de si on fait pas le boulot, si on fait pas ce qu'on a à faire, voilà à quoi on est exposé.
Didier Deschamps pourrait procéder ce soir jusqu'à 9 changements. Mike Maignan devrait retrouver sa place dans les buts. Le vétéran Olivier Giroud va sans doute retrouver lui une place de titulaire en attaque. Ce soir, Kylian Mbappé et les autres joueurs du PSG pourraient être accueillis par les sifflets du Vélodrome, le stade de l'OM. Mais le capitaine des Bleus n'est pas inquiet. Il va tout faire pour gagner face au Chili, une équipe chilienne emmenée par l'ancien attaquant marseillais Alexis Sanchez, qui lui était adulé par les fans olympiens.
Cyril de la Morinerie, France-Chili, le coup d'envoi sera donné à 21h. Les marchés financiers maintenant avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Paris termine en très légère hausse.
Une séance calme et un gain de 0,4%. Le CAC 40 termine à 8185 points. Un marché soutenu notamment par le groupe de luxe Kering qui reprend 3% après avoir souffert la semaine dernière. BNP Paribas de son côté bondit de 2,9% soutenu par une note d'analyste. Et puis Atos gagne 0,7% après un très mauvais départ. Le groupe informatique a publié une perte nette de 3,4 milliards d'euros ce matin. Il a annoncé aussi une procédure amiable avec ses créanciers pour renégocier sa dette. Atos qui a plongé de 75% en bourse depuis le 1er janvier. C'est du vert ce soir en Europe. Francfort gagne 0,8% et Londres plus 0,2. Plus 0,4 à Paris pour le CAC 40, 8185 points.
Merci Claire Lemaître. Et on passe à la météo, Marlène Duret. On va commencer par cette vigilance vigilance orange pour la neige dans 3 départements du Centre-Est.
Et oui, l'Isère, la Loire et la Haute-Loire. À partir de minuit et jusqu'à 9h demain matin, nouvel épisode neigeux qui pourrait entraîner des problèmes de circulation. Attention, je vous rappelle la situation. Depuis la nuit dernière, on a une perturbation qui arrose le pays, parfois copieusement. Elle s'est déplacée d'ouest en est et elle va avoir tendance à faire du surplace demain sur la façade est. Donc elle va bouger assez lentement. Il va neiger sur l'ensemble des massifs, mais ce qui va se passer, c'est que la limite plus neige va s'abaisser cette nuit vers 600 ou 500 mètres. Météo France prévoit 10 cm de neige au Puy-en-Velay, 20 cm sur les plateaux à partir de 1000 mètres. Et concernant la Loire et l'Isère, si comme prévu, il neige au-dessus de 400 mètres, ça va avoir un impact sur la région de Saint-Étienne, l'agglomération et les terres froides. On prévoit 10 cm de neige lourde et collante à partir de 600 mètres. Voilà. Puis ensuite, demain, cette limite plus neige va remonter évidemment. Attention au risque d'avalanche dans les Alpes du Sud. Le risque est quand même de 4 sur 5. Et puis la tendance pour demain, c'est aussi le retour du soleil autour de la Méditerranée, du Roussillon au Var, plus tardivement en Corse. De nouvelles pluies vont arriver et vont traverser les régions de la moitié ouest. Et puis en fin de journée, la météo qui s'annonce agité du côté de l'Aquitaine, et oui, avec des averses orageuses accompagnées de rafales de vent à 100 km à l'heure quand même envisagées pour la côte aquitaine.
Voilà. Et parlons des températures, c'est pas franchement génial. Hein.
Non, bah non. Alors pas de gelée le matin, même si on sera pas loin du zéro dans le sud-ouest avec 1 degré attendu à Auch ou à Tarbes. La valeur la plus haute, 10 degrés, on va la trouver près de la Grande Bleue. Et puis en journée, peu d'amplitude, Hélène. Comptez 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 15 sur le quart sud-ouest. Allez, ça peut monter jusqu'à 17 sur l'ouest du Pays Basque. Et puis 13 à 16 près des rivages méditerranéens.
Merci Marlène, 19h17 sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h dans un instant. Combler le déficit, oui, mais quelles conséquences sur nos vies? On en parle dans une poignée de secondes.
Europe 1 soir, 19h-20h.
Hélène Zélani.
19h20 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. 5,5%, c'est le chiffre du jour dévoilé par l'INSEE. Le déficit public pour 2023 s'élève donc finalement à 5,5% du PIB, 154 milliards d'euros. Et c'est, comme on s'y attendait, bien plus que les 4,9% prévus par Bercy. On en parle avec vous, Anne-Sophie Alsif. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste du cabinet de conseil BDO France. Merci beaucoup d'être à mes côtés dans Europe 1. Soir. Alors maintenant, on fait comment? Je voudrais qu'on essaie d'être le plus concret possible. Où l'État peut-il trouver de l'argent? Est-ce que c'est plutôt en faisant des économies ou en trouvant des nouvelles rentrées d'argent?
Alors, il y a plusieurs solutions. C'est vrai que l'État peut trouver de nouvelles entrées. Ça veut dire augmenter les impôts. Alors après, la question, c'est quels impôts? La Cour des comptes déjà nous dit que cette année, il y aura à peu près 3 milliards d'impôts de hausse d'impôts, dans différents domaines. C'est sûrement des niches fiscales qui vont être abaissées, des aides qui vont diminuer. Donc, on aura déjà quelques hausses d'impôts. Après, l'idée du gouvernement, c'est de ne pas trop aller vers cette loi, puisque on ne veut pas augmenter, par exemple, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, ce type, ou la TVA, par exemple. Donc ça, c'est non pour le gouvernement en termes de hausse d'impôts pour l'instant. Même si on voit que maintenant, il y a un petit peu des champs, notamment sur des taxes sur les super-profits ou des taxes exceptionnelles qui pourraient peut-être être ouvertes au Parlement. Mais en tout cas, pour l'instant, la ligne, c'est pas de hausse d'impôts. L'autre élément, ça serait en effet d'agir sur les dépenses. On le dit souvent, hein, on a un taux de dépenses qui est les plus élevés au monde. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que la majorité de ces dépenses publiques, hein, donc de l'État qui dépense cet argent, c'est du revenu. Donc, c'est du revenu pour vous, moi, pour l'ensemble des Français, sous forme d'aide, d'APL, de sécurité sociale. Et dans un pays où le principal moteur de cette croissance, bah, c'est la consommation, c'est vous qui allez au supermarché, qui allez plus ou moins consommer, et c'est grâce à ça qu'on n'est pas en récession, qu'on a un minimum de croissance, et bien toucher massivement à ça, c'est compliqué. Parce que la récession, c'est le pire pour la dette. Donc, c'est un petit peu les deux moyens de réduire ce déficit. Et donc, on voit que ce n'est pas évident pour le gouvernement.
Alors, si on se met donc à la place de nos auditeurs, on se dit, OK, il y a quand même beaucoup d'argent à essayer. Enfin, il y a un trou qu'il faut remplir, il y a un déficit qu'il faut remplir. Les hausses d'impôts, c'est non. Le gouvernement l'a dit très clairement. Bon, on approche d'élections. On sait qu'évidemment, les hausses d'impôts, ça n'est jamais très populaire. C'est tenable pour vous de continuer sur cette ligne? Les impôts n'augmenteront pas?
Alors, c'est tenable si on a plus de croissance économique. Or, la croissance économique, économique se décrète pas et on voit que, on l'a vu encore le mois dernier, hein, les hypothèses de croissance pour cette année du gouvernement étaient très hautes. On était à 1,4%, ils ont revu à la baisse à 1% et donc ils essaient de chercher 10 milliards d'euros. Donc c'est vrai que si on a par exemple plus de 1,5% de croissance, il y a moins besoin d'augmenter les impôts ou de faire des économies. Donc là, ce ne sera pas le cas. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, on ne peut pas compter sur une grande croissance. C'est difficile d'aller sur les impôts, on l'a dit. Eh bien, c'est vrai que c'est vraiment le chemin de la dépense qui semble privilégié par le gouvernement. Donc essayer de faire des économies.
Alors j'aimerais qu'on prenne en ligne François qui nous appelle de Bretagne. Bonsoir François.
Bonsoir.
Merci d'intervenir en direct sur Europe 1. Vous, on parle d'impôts. Est-ce que quand on voit l'ampleur du déficit de la France, ça vous paraît envisageable de faire un effort supplémentaire?
Écoutez, moi, je pense que c'est encore une année de plus. Donc, on a effectivement du déficit. Ça fait 40 ans qu'on a du déficit structurel en France. Il n'y a qu'une seule année, en fait, depuis 40 ans qu'on n'a pas de déficit. C'est le jour, effectivement, où on a vendu les actions d'Air France. C'était son gouvernement Jospin, avec Chirac. Et depuis, en fait, toutes les années, depuis 40 ans, on n'a que du déficit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec le Covid, avec effectivement le sauctage des banques qu'il y a eu, on a 3300 milliards de dettes. Ce qui veut dire que globalement, aujourd'hui, on est dans un état en faillite. Il faut dire les choses. Enfin, vous avez effectivement une chef économiste à côté de vous.
Oui, justement, c'est une question que je comptais lui poser.
Voilà.
Vous estimez, vous avez le sentiment de vivre dans un pays en faillite?
On est en faillite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend les recettes et dépenses, il est impossible de récupérer la dette. Et dites-vous bien, ça c'est bien si on, effectivement, on avait des sources de croissance, ce qu'on n'a pas. On n'a aucune source de croissance. Les 3300 milliards, aujourd'hui, on les rembourse pas, on ne paye que les intérêts de la dette.
Alors...
Et on emprunte sur les intérêts de la dette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si un banquier vous prêtait une somme d'argent pour acheter votre maison et tous les ans, vous allez l'emprunter pour payer les intérêts de cette maison.
Alors, tout ce que vous dites est extrêmement intéressant, François. Comme vous l'avez bien rappelé, nous sommes avec Anne-Sophie Alsif, qui est chef économiste au cabinet de conseil BDO et qui connaît extrêmement bien ces sujets, bien mieux qu'on pourra, c'est sûr. François a soulevé plusieurs points très importants. Il dit que c'est impossible de récupérer la dette. Est-ce que là-dessus, vous le suivez ou pas?
Oui, tout à fait. Mais si je peux me permettre, la grande différence, c'est qu'un État n'est pas une entreprise ou n'est pas un ménage. Et c'est ça la grande différence. Les États-Unis sont endettés, ont un déficit de plus de 6%. Ce n'est pas grave parce qu'ils sont endettés en dollars. Le Japon a une dette publique de 240% du PIB. C'est pas grave puisque la majorité de sa dette appartient aux Japonais. Nous avons une dette de 3000 milliards, comme l'a très justement dit votre interlocuteur. C'est pas grave aussi parce que quand on regarde les investisseurs, on a 3000 milliards d'épargne sur nos comptes. Votre livret A, vos LDD. Ben ça, on en a plein d'épargne. Par exemple, aux États-Unis, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est ce qu'on appelle le collatéral. Votre banquier, souvent, quand vous voulez justement aller le voir et emprunter, vous dit très bien, mais qu'est-ce que vous avez comme actif? Et vous devez lister tout ce que vous avez. Et en fonction de ce que vous avez, ben même si vous n'avez pas le cash, il va quand même vous prêter pour acheter votre maison parce que vous allez avoir peut-être un tableau, vous allez avoir quelque chose de grande valeur. Et bien, l'État, c'est ça, fois 10, fois des proportions énormes. Et puis, l'autre élément, c'est qu'on a la fameuse Banque Centrale Européenne. Alors, cette banque, c'est assez magique. Hein, on a dit, c'est la fin de l'argent magique, mais c'est vrai qu'elle produit de l'argent magique. Vous, moi, vous allez voir d'autres banquiers, il va pas vous produire de l'argent magique parce que vous n'avez pas remboursé votre crédit. Et donc, c'est pour ça que ce que votre auditeur dit est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'il compare l'État à un ménage ou à une entreprise et c'est différent.
Et je voulais aussi vous interroger sur un autre point qu'a soulevé François. Il dit que la France n'a aucune source de croissance.
Alors ça aussi, hein, c'est faux. Ce qu'on voit dans l'ensemble des pays développés, hein, donc ce n'est pas que la France, c'est qu'en effet, on a un ralentissement de la productivité. Parce qu'on a le vieillissement de la population, la révolution numérique, etc., la démographie. Et ça, en effet, ça crée moins de croissance. Par contre, on n'a pas besoin, et de toute façon, quand vous êtes dans un chemin de croissance, hein, au début, vous avez 5-6% de croissance parce que vous émergez. Et ensuite, c'est normal d'avoir une croissance qui est moins importante. L'exemple, c'est la Chine aujourd'hui, qui devient un pays de plus en plus industrialisé. Son taux de croissance baisse. Donc ça, c'est normal. Après, c'est vrai qu'on a un taux de croissance qui est assez bas. Hein. On parle de croissance potentielle à 1,2-1,3%. Donc c'est faible. Il nous faudrait plutôt du 1,5% pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Mais on a des relais de croissance. Alors, on l'a dit, hein, quel relais de croissance? On a déjà, parce que c'est toujours dans les relais de croissance, c'est on se compare par rapport aux autres. Quand vous regardez les investisseurs, hein, des gens qui investissent en France, on est quand même la première destination en Europe où les investisseurs investisseurs vont devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni, eh bien ils disent « oui, on a une certaine stabilité politique ». Oui, par rapport aux autres, c'est vrai. On a des institutions qui sont solides. Oui, par rapport aux autres pays, c'est vrai. On a de bonnes infrastructures. On a justement des services publics adaptés. On a une bonne éducation, une bonne santé, même si bien sûr on peut tout critiquer. Et donc finalement, eh bien, on est un peu moins malade que les autres. Et donc ça, ça satisfait bah, beaucoup de financiers, d'investisseurs qui nous trouvent attractifs et donc qui nous permettent d'avoir de l'investissement.
Alors, Anne-Sophie Alsif, chef économiste, juste un mot, François, parce que là, on doit faire une pause. Dites-nous, vous avez entendu les arguments qui sont quand même assez justes, on ne peut pas dire le contraire, quand vous entendez les explications d'Anne-Sophie.
Alors, il faut bien trouver une source d'optimisme, elle a raison, parce qu'il y en a peu. Mais, alors, effectivement, première source, effectivement, de destination des entreprises, comment expliquer qu'on a une balance commerciale désastreuse qui est déficitaire. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on a une croissance qui est depuis des années, en fait, à 1%, qui est scotchée à 1% parce qu'aujourd'hui, on a trop d'impôts. On a trop d'impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la masse d'impôts, c'est un Français sur deux, un foyer fiscal sur deux qui le paye. Et vous voyez qu'il y a une grosse proportion des gens en France qui payent de l'impôt. Et c'est ça, en fait, qui pèse sur le ménage.
On entend bien ce que vous dites. Merci beaucoup, François. On va continuer à parler de ce déficit, de ce que vous soulevez. Hein. Est-ce qu'on paye trop d'impôts? Est-ce qu'on risque d'en payer encore plus? Ne bougez pas, on y revient dans un instant.
Europe 1, le journal permanent.
Aux États-Unis, le porte-conteneur qui a percuté le pont de Baltimore la nuit dernière avait un problème électrique, une perte momentanée de propulsion qui a provoqué la collision. Le navire sous pavillon de Singapour a heurté un pilier à 15 km/h, ce qui a entraîné l'effondrement du pont. 6 personnes sont toujours portées disparues. Nous allons poursuivre sur la voie de la rigueur pour combler le déficit budgétaire. C'est ce qu'affirme Gabriel Attal. Le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB l'an dernier, selon l'INSEE. Un débat sur les finances publiques sera organisé le 29 avril à l'Assemblée. Le patron du FSB, les services de sécurité russes accusent l'Ukraine et l'Occident d'avoir facilité l'attentat de Moscou qui a fait au moins 139 morts. Attentat revendiqué par le groupe État islamique. Un huitième suspect a été placé en détention provisoire aujourd'hui. Les assaillants présumés ont eux été arrêtés dès samedi. Et puis l'équipe de France de foot espère rebondir ce soir face au Chili après la défaite samedi contre l'Allemagne. Coup d'envoi à 21h au stade Vélodrome.
19h-20h, Europe 1 Soir.
Et à 19h35, nous sommes toujours avec Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BTO France, pour parler des solutions face au déficit. Notre auditeur, François, juste avant la pause, était assez pessimiste, il faut le reconnaître. Il disait même que la France était aujourd'hui en faillite.
Alors non, hein, la France n'est pas en faillite. Par contre, en effet, ce déficit est très important. Hein. Normalement, il faudrait avoir 3% de déficit et on explique qu'on est à 5,5%. Donc on l'a beaucoup dépassé. Donc ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que ça veut dire aussi qu'on doit emprunter sur les marchés pour financer justement ce déficit. Et cet argent qu'on emprunte, eh bien, son prix, hein, comme vous, votre taux d'intérêt, quand vous avez un prêt immobilier, eh bien, augmente. C'est-à-dire que, par exemple, chaque mois, au lieu de payer 100 euros, bah, vous allez payer 200 ou 300 euros. Bon, bien, forcément, hein, ça va gréver vos budgets quotidiennement. Eh bien, c'est pareil pour l'État. Et c'est ça, la mauvaise nouvelle, c'est que, avec cette situation, hein, dégradée des finances publiques, on emprunte plus dans un contexte où les taux, justement, ont augmenté. Vous le savez, si vous avez voulu acheter une maison ou un appartement. Et donc, l'État doit consacrer plus d'argent au remboursement de la dette. Et forcément, cet argent ne va pas à l'éducation, à la santé, aux fameuses priorités.
Alors, l'objectif, c'est de ramener le déficit sous les 3% du PIB en 2027. Hein, c'est ce que promet Bruno Le Maire. C'est réaliste, selon vous?
Alors, nous, en effet, on fait des prévisions. On trouve que c'est pas réaliste, hein, que le compte n'y est pas. Pourquoi? Parce que, justement, la croissance, comme on en a parlé, ne sera pas suffisante pour créer assez de richesses. Et puis, l'autre élément, hein, c'est aussi la conjoncture internationale, hein, qui est quand même dans une situation, les risques géopolitiques, le ralentissement, on l'a dit, de la Chine. Les États-Unis se portent bien, mais la Chine ralentit. Et donc, c'est vrai que les conditions macroéconomiques, qu'on l'a vu l'année dernière, avec l'Allemagne, qui est en récession, notre premier client, eh bien, font que ce taux de croissance et ces perspectives sont quand même un petit peu assombries. Et donc, de baisser le déficit, on dit, hein, le meilleur élément pour baisser le déficit, c'est de la dette publique, de la croissance économique, eh bien, on n'en aura pas assez pour avoir cette baisse et être à 3% en 2027.
Voilà, donc c'est pas gagné. Je vous remercie beaucoup d'avoir été extrêmement claire, Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France.
Merci.
Toujours pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, le gouvernement veut frapper fort contre la drogue et les trafiquants. On va s'intéresser à ce marché florissant, d'autant que plusieurs opérations place nette sont en cours dans toute la France. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, veut s'attaquer aux avoirs des trafiquants et, comme il dit, taper au portefeuille.
Dès que nous avons le repérage d'un trafiquant, qu'il soit en France ou à l'étranger, nous puissions envoyer instruction du ministère de l'économie et des finances pour geler l'intégralité des avoirs financiers de ce narcotrafiquant. Il faut taper au portefeuille, taper fortement, taper rapidement.
Voilà, le ministre de l'économie. Et ça nous donne l'occasion de faire le point sur l'importance du trafic de drogue en France avec vous, Frédéric Ploquin. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1, spécialiste du grand banditisme, auteur notamment du livre « Les narcos français brisent l'omerta » chez Albin Michel. D'abord, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui travaillent ou qui sont liées au trafic de drogue ?
Il existe des chiffres. Bon, par définition, l'économie de la drogue est relativement invisible. C'est-à-dire qu'en gros, ce ne sont pas des personnes qui payent des impôts, qui payent leur pas de porte, qui payent des taxes foncières, ni quoi que ce soit. Ils n'ont même pas de loyer pour leur magasin. Donc, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'indices qui permettent de chiffrer. Mais en gros, le chiffre le plus précis dont je dispose quant au nombre de personnes qui sont enrôlées dans cette économie de la drogue au niveau de l'Hexagone, au niveau de l'Hexagone, c'est autour de 250 000 personnes directement. Alors là-dedans, vous avez des gens, vous en avez qui gagnent très très bien leur vie, mais ils sont pas très nombreux. Et vous avez globalement quand même une main-d'œuvre qui gagne pas forcément, enfin qui gagne effectivement s'ils optent pour ce commerce-là, c'est qu'ils gagnent mieux leur vie qu'au SMIC ou à l'usine, mais néanmoins qui est pas forcément très bien payé. D'ailleurs, c'est le modèle économique même du trafic de stup, c'est d'assez peu d'entretenir une forme de lumpen prolétariat qui n'est pas très bien payé, tandis que les caïds, eux, roulent dans des voitures de luxe au soleil de Dubaï.
Alors, Bruno Le Maire, devant la commission d'enquête du Sénat, disait tout à l'heure que le chiffre d'affaires du trafic de drogue s'élevait à au moins 3 milliards d'euros.
Alors moi, je pense qu'il est...
Il est en dessous de la vérité.
Je pense qu'il est légèrement en dessous de la vérité. Encore une fois, c'est pas, de la même manière, c'est très difficile à chiffrer.
Bien sûr.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une... Le trafic, l'économie de la drogue est une véritable machine à cash pour une raison simple, c'est que à la production, que ce soit au Maroc pour le cannabis ou en Colombie ou au Pérou pour la cocaïne, à la production, si vous voulez, un plan, ça coûte rien. Ça coûte un euro, quoi, en gros. Hein. Et au final, quand vous importez ce kilo de cocaïne qui, à la pousse, ne coûte strictement rien, vous pouvez le revendre 40, 50 000 euros, 60 000 euros en Europe. Alors, effectivement, il y a des frais sur le passage. Il faut payer des dockers, il faut soudoyer éventuellement dans les pays de départ et d'arrivée des douaniers, des policiers, pourquoi pas, etc. Je parle au moins pour ce qui est de la Colombie et de Pérou, et puis également pour avoir des portes d'entrée. Donc vous avez des frais sur le passage, mais néanmoins, ça dégage énormément d'argent. Et moi, les chiffres les plus fiables, enfin précis que j'ai, c'est plutôt une économie qui générerait à l'échelle de la France autour de 4 milliards par an, ce qui est quand même pas mal, mais qui est très loin du chiffrage qui est fait de l'économie de la drogue à l'échelle mondiale, qui tournerait autour de entre 500 et 600 milliards.
Mais c'est complètement fou.
Oui, absolument. Mais si vous considérez qu'il y a en France à peu près 600 000 consommateurs réguliers de cocaïne, et qu'à côté de ça, les Français consomment, j'ai calculé, environ 40 tonnes de cannabis par mois, c'est-à-dire une tonne et demie par jour. Déjà, vous avez des éléments qui vous permettent de chiffrer 600 000 consommateurs réguliers de cocaïne. Ça fait beaucoup d'argent.
Bruno Le Maire disait tout à l'heure cette phrase en parlant du narcotrafic. Nous ne sommes plus du tout face à des réseaux artisanaux. J'ai vu l'artisanat se transformer en grand banditisme. C'est évidemment ce que vous constatez aussi.
Si vous voulez, il y a effectivement une forme de professionnalisation, mais il y a tout dans le trafic de stupéfiants. Vous avez des multinationales, vous avez des organisations criminelles mondialisées, et à la base, sur le terrain, vous avez une multitude de micro-PME qui qui elle gère la distribution du produit. Donc là, il y a toujours, enfin, ça dépend de ce qu'on entend par artisanat, effectivement, mais il y a toujours une partie de, voilà, une partie de, d'improvisation, de choses comme ça. Mais globalement, cette économie s'est professionnalisée avec des gens qui appliquent un modèle économique qui est celui de la concurrence sauvage, du dumping généralisé, qui pratique la fidélisation de la clientèle. Et dans ce sens-là, ce sont plus tout à fait des petits artisans. Ce sont effectivement des individus qui en gros traitent avec les moyens de l'économie officielle, réelle, et qui simplement singent en gros le capitalisme et le libéralisme pour le pousser jusqu'à l'extrême.
On a beaucoup parlé, hein, évidemment, des opérations place nette ces derniers jours. Selon vous, c'est de la com ou c'est réellement utile ?
Moi, j'ai tendance à dire que c'est d'abord de la communication, mais il faut pas forcément voir quelque chose de péjoratif là-dedans. C'est-à-dire que en face de lui, l'État a des organisations criminelles qui communiquent à outrance sur leur force de frappe, sur les armes dont ils disposent, sur la qualité de leurs produits. Et je trouve, à titre personnel, que ce serait dommage que l'État ne se prive totalement de communiquer lui aussi, de montrer que lui aussi est capable peut-être à un moment donné d'inverser le rapport de force. Je ne sais pas si l'État y arrivera, mais toujours est-il que la communication fait partie de cette façon de tenter d'inverser le rapport de force, puisque les magistrats de Marseille, entendus récemment par une comité sénatoriale, ont précisé que le combat contre la drogue était, selon eux, de leur point de vue, asymétrique, mais au profit des trafiquants. Donc de la com, oui, mais en même temps, ça dérange. Ça dérange sur le terrain, ça dérange les consommateurs, ça dérange l'économie, les personnes qui travaillent sur le territoire qui est ciblé. Après, ça ne les dérangera pas très longtemps s'il n'y a pas des dossiers sérieux qui sont montés par la police judiciaire derrière, avec des possibilités de distribuer des peines de prison dignes de ce nom. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on ramasse... La rafle, entre guillemets, n'a jamais donné... grand chose au niveau de la justice. Après, vous envoyez 100, 200 personnes dans la justice, mais il n'y a pas de dossier solide, donc il n'y a pas de suivi. Donc, une semaine après, ils peuvent reprendre leur poste, en gros.
Et ce que disait tout à l'heure, on l'a entendu, Bruno Le Maire, taper au porte-monnaie, geler les avoirs des trafiquants, vous pensez que c'est une bonne idée ?
C'est sur le papier, c'est évidemment une très bonne idée. En France, on n'est pas des grands spécialistes de ça. Après, parce qu'on manque justement, on manque cruellement de policiers spécialisés sur les questions économiques, sur la délinquance économique et financière. Il y en a de moins en moins, il y en a peu. C'est très spécialisé comme travail. Ils peuvent travailler, ils peuvent être épaulés évidemment par des agents de l'administration fiscale ou des douanes. Mais vous imaginez bien que il faudrait recruter des grands spécialistes pour arriver à démonter la machine à blanchir qu'on a face à nous et qui est multiple. Hein. Vous avez du petit blanchiment sur le terrain à la base, dans des petites boutiques. À l'échelle au-dessus, vous avez un certain nombre d'établissements financiers qui absorbent une partie de la manne. Et puis, au-delà de ça, vous avez une partie de l'argent qui est inatteignable, puisque, en fait, il quitte aussitôt le territoire pour regagner soit les pays d'origine des trafiquants de stupéfiants et être investi. Je sais pas, j'en ai rencontré un qui avait acheté une dizaine de pizzeria à Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Non, mais attendez, c'est une fois que l'argent est là-bas ou un autre qui avait acheté 4 appartements de 100 mètres carrés à Dubaï. Donc, une fois que c'est là-bas, et puis qu'il y a un certain nombre d'écrans qui ont été mis, je trouve que c'est très louable comme volonté, mais c'est relativement difficile à mettre en œuvre.
Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été en direct sur Europe 1, spécialiste du grand banditisme. Je rappelle votre dernier ouvrage, 15 minutes pour sauver ma vie, c'est le livre du chauffeur de taxi qui a pris en charge le terroriste du marché de Noël de Strasbourg. A tout de suite, on va parler des conséquences du changement climatique sur le vin.
Europe 1 soir, 19h-20h,
Hélène Zélani.
19h50 sur Europe 1, le changement climatique a de vraies conséquences sur la production de vin, on le savait déjà, mais une étude parue aujourd'hui vient le confirmer. Certaines régions du monde ne pourront plus en produire si le réchauffement dépasse les 2 degrés. D'autres, au contraire, pourront se lancer. On en parle avec vous, Jean-Marc Touzard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, économiste, agronome. Vous avez également co-animé un projet sur l'adaptation des vignobles français au changement climatique. Alors d'abord, concrètement, cette étude, elle nous dit que la quasi-totalité des régions viticoles traditionnelles en Espagne, en Italie et en Grèce pourraient disparaître d'ici la fin du siècle.
Oui, alors c'est des collègues hein, de mon programme, de notre programme qui cette étude. Et oui, en projetant un petit peu sur 2050 et au-delà, avec des augmentations soit à 2 degrés, soit plus à 4 degrés, on voit qu'effectivement, en Italie, en Espagne, en Grèce, une partie des vignobles, la grande partie des vignobles actuels, ne pourront plus faire du vin de qualité avec des rendements suffisants pour que ce soit rentable économiquement pour les producteurs.
Alors, pour quelles raisons exactement ? Est-ce que c'est l'influence de la chaleur sur les plants de vigne ?
Oui, enfin, sur le fonctionnement de la vigne, avec des baisses de rendement. La vigne va avoir besoin d'eau, quand même si c'est une plante qui s'adapte bien à la sécheresse. Au bout d'un moment, il y a un déficit hydrique tellement élevé, hein, du fait qu'il y a moins de pluie en été, il y a des chaleurs plus importantes, donc la vigne transpire davantage. Et bien, on a des rendements qui baissent. Et puis, en même temps, la qualité des raisins et du vin se modifie, plus d'alcool, des goûts différents, ce qui peut faire hésiter les consommateurs. Donc au total, voilà, on a des difficultés à produire du vin de qualité avec des rendements suffisants sur une partie de l'espace méditerranéen.
Et alors la France, comment ça peut se passer à terme ? On peut imaginer qu'il y a des températures plus élevées qui vont handicaper peut-être le sud de la France et finalement améliorer la production d'un vin de qualité dans le nord.
Oui, c'est ça. La France, elle a la chance d'avoir une grande diversité de terroirs, de climats. Alors, dans l'étude, déjà à plus de 2 degrés, hein, c'est-à-dire en gros autour des objectifs de l'accord de COP21, donc si on arrive à réduire quand même nos émissions de gaz à effet de serre, à plus de 2 degrés, tous les vignobles français peuvent se maintenir avec des adaptations, hein, mais pour continuer à produire du vin de qualité. À plus 4 degrés, ça devient un peu plus difficile quand même pour le sud de la France, du fait de ces déficits hydriques, de ces baisses de rendement. Mais d'autres régions, comme la Bretagne, la Normandie, le Nord, ou des zones de montagne même, hein, vont pouvoir développer davantage de vignes et faire du vin.
Est-ce que les viticulteurs préparent déjà cette hausse des températures, par exemple en faisant évoluer les cépages ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est les impacts du changement climatique, on les observe depuis les années 80. Les viticulteurs, puis nous-mêmes, cherchons, on a commencé à vraiment le voir de manière très précisément à partir des années 2005-2010. Hein, et donc, depuis au moins une dizaine d'années, la plupart des viticulteurs dans toutes les régions de France ont conscience de ces impacts, l'avancée des dates de vendange, des modifications de qualité des vins, parfois des déficits hydriques. Et ils s'adaptent en changeant des cépages, en testant. On est plutôt encore en une phase d'expérimentation, hein, c'est clair, mais c'est dans la tête de tous les viticulteurs. Donc il y a plein d'expérimentateurs partout. Hein.
Ce qui est très frappant quand on aime, comme moi, le vin rouge, c'est que la température, c'est de plus en plus élevé, c'est-à-dire, le nombre de degrés, le taux d'alcool, pardon,
oui,
pardonnez-moi. C'est-à-dire que là, on trouve très couramment des vins à 14, voire 14,5 qui tournent sérieusement la tête.
Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'on a étudié, par exemple, depuis les années 80, en Languedoc, la partie en Hérault, Haute, Pyrénées orientales et Gard, les vins sont passés d'une moyenne de 11,5 degrés d'alcool, en taux d'alcool, à aujourd'hui, effectivement, autour de 14 degrés en moyenne. Hein. Et ça, c'est un effet du changement climatique, parce que ben, les baies sont plus petites, elles se concentrent davantage, elles arrivent à élaborer tout le sucre qu'il faut, puis voilà, elles sont plus petites, il y a donc une concentration plus élevée de sucre et donc ensuite d'alcool dans le vin.
Vous pensez que la France peut quand même donc tirer son épingle du jeu, même si avec ce changement climatique, et garder une production viticole quasiment sur tout le territoire ?
Oui, alors à plus de degrés, encore une fois, je le répète, à plus de degrés, donc il faut tout faire pour que les accords de la COP21 se réalisent, tout faire pour arriver à ce scénario, à stabiliser le climat à partir de 2050 autour de plus de degrés. Là, dans ces conditions, tous les vignobles en France, avec des mesures d'adaptation, de changement de cépage, de pratiques, ou même de gestion des sols, etc., toutes les vignes, voire d'implantation, d'irrigation, de précision, tous ces vignobles peuvent s'adapter. À plus 4 degrés, je vous l'ai dit, c'est plus compliqué pour les vignobles du sud de la France, mais il y a encore des options. Hein. On n'est pas dans la situation de l'Espagne ou de l'Italie ou de la Grèce. Là, les espaces littoraux de ces pays vont être beaucoup, beaucoup plus affectés. Ouais.
Et de nouvelles régions viticoles vont pouvoir aussi exister. Je lisais qu'on pourrait trouver du vin aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique.
On en a déjà un petit peu.
Hein. Oui, oui.
On a déjà un petit peu à titre expérimental au Danemark, même aux Pays-Bas. Vous allez à Amsterdam, vous pourrez déjà voir quelques cépages par-ci, par-là. Mais planter. Mais non, c'est, on a de nouvelles régions. Tout le nord de l'Europe va devenir favorable, au moins au niveau des températures. Hein. Après, il ne faut pas oublier que le changement climatique, ce n'est pas qu'une question d'augmentation de température ou de modification de la pluviométrie, c'est aussi des aléas plus importants, des événements extrêmes, des vagues de chaleur, des pluies torrentielles. Et là, on a plus de mal, c'est donc des risques plus élevés. On a plus de mal à analyser éventuellement, mais ça peut aussi handicaper la constitution de grands vignobles, y compris dans le nord de la France. Donc ce que nous, on pense, on voit qu'on peut, on va pouvoir faire, développer des vignobles en Bretagne, en Normandie. De là à dire que ces régions vont devenir de grandes régions viticoles, ça me semble un petit peu plus délicat.
On n'en est pas là.
Il y a des investissements réalisés, il y a des risques, comme je le dis. Mais par contre, on a déjà plein de viticulteurs qui expérimentent. Hein, en Bretagne, vous allez dans la vallée de la Rance, vous allez trouver un viticulteur, des viticulteurs.
On va goûter le vin breton. Bah, je vous remercie beaucoup, Jean-Marc Touzard, directeur de recherche à l'INRA, co-auteur du livre « Vigne, vin et changement climatique » aux éditions Coaé. Merci d'avoir été sur
Europe 1. Nathalie Olas, ma collègue de Bordeaux.
Merci beaucoup.
Europe 1 Soir.
Et merci à tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 Soir. Très bonne soirée avec La France Bouge et Elisabeth Assayag. Bonsoir Elisabeth, quel est le programme ?
Bonsoir Hélène. Ce soir dans La France Bouge, une filière qui s'était perdue en France, la filière des fleurs coupées. Vous savez que les fleurs viennent la plupart de pays étrangers. Eh bien, en France, il y a une filière qui est en train de se reconstituer et on va en parler avec l'une des plus anciennes entreprises françaises, le patron d'Ernest Turc, une entreprise familiale aussi. À tout à l'heure.